France Inter.
Le journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. En France, une pénurie de médecins. À l'étranger, des étudiants français en médecine qui ne rentrent pas. Paradoxe auquel veut s'attaquer le gouvernement, mais aussi les élus locaux dans les déserts médicaux. Dans ce journal, parole de carabins expatriés en Roumanie. Derrière la cyberattaque contre France Travail, non pas de puissants hackers russes, mais plus certainement des jeunes français doués en informatique. Trois suspects d'une vingtaine d'années mis en examen hier soir, on en sait un peu plus sur leur profil. À suivre aussi, un Premier ministre noir au Pays de Galles, c'est une première en Europe. En salle aujourd'hui, le film de Christine Angot, une claque contre l'inceste et le silence qui l'entoure. Et puis les basketteuses et basketteurs français fixés sur leurs premiers adversaires du tournoi olympique.
Et le sport au micro de Sonia De Villers dans 20 minutes avec la footballeuse Grace Gayoro, capitaine du PSG, membre de l'équipe de France. En Belgique, au Portugal ou encore en Europe de l'Est.
Ils sont chaque année des centaines d'étudiants français à partir faire médecine à l'étranger, faute d'avoir été sélectionnés en France. Mais à la fin de leurs études, tous ne rentrent pas, loin de là, et c'est bien dommage. En pleine pénurie de soignants, il faut trouver les moyens de les faire revenir, a lancé le Premier ministre lors de son discours de politique générale en janvier. Et voilà que les maires ruraux se joignent au mouvement, particulièrement concernés par les déserts médicaux. Ils lancent une étude sur ces 300 Français partis dans les facs de médecine francophones de Roumanie. Victor Dolande, vous les avez interrogés, ces jeunes. Beaucoup d'entre eux n'attendent que ça, pouvoir exercer en France.
Après avoir échoué à la fin de la première année de médecine en France, Marc-Antoine s'est envolé pour la Roumanie, direction l'université de Iași, avec une idée très précise derrière la tête.
Mon but, ça a toujours été de revenir en France. J'ai toujours voulu faire médecine générale. Je viens du centre de la France. C'est une désertification médicale totale. Le bassin de vie dans lequel j'habite, c'est 20 000 habitants à peu près. Il y a 10 ans, il y avait 14 médecins généralistes. À la fin de l'année 2024, il n'y en aura plus qu'un.
Chloé étudie à l'université de Cluj et veut devenir aussi médecin généraliste. Mais pour revenir dans le système français, il faut réussir le concours de l'internat à la fin de la 6e année. Un concours moins accessible, selon elle, pour les étudiants partis à l'étranger.
C'est sûr que les conditions de retour sont vraiment assez difficiles, notamment le fait qu'on n'ait pas accès à une plateforme d'entraînement pour la partie écrite. On n'a pas non plus accès aux entraînements pour la partie pratique.
Gilles Noël est maire de la commune de Varzy et vice-président de l'association des maires ruraux en charge de la santé. Il regrette que la France ne s'appuie pas davantage sur ses étudiants à l'étranger.
À la fin de leurs études, la plupart de ces jeunes vont exercer en Allemagne et en Suisse. Donc c'est vrai que l'administration ne fait pas tous les efforts pour capter ce vivier de futurs professionnels de santé ici en France.
Selon nos informations, un émissaire sera bientôt nommé par le ministère de la Santé pour faire justement revenir plus facilement ses futurs médecins.
Et chez LR aussi, on s'empare du sujet avec une proposition de loi visant à réintégrer ces étudiants dans le cursus français de médecine. Texte voté à l'Assemblée il y a 2 mois et qui attend maintenant de passer au Sénat. 98 interpellations, bilan revu à la hausse dans la soirée après 2 jours d'opération PlaceNet XXL à Marseille contre le trafic de drogue. 800 policiers et gendarmes mobilisés, ils ont saisi 4 armes, des stupéfiants, 380 000 euros de liquide et d'avoirs. Une dizaine d'opérations de ce type doivent maintenant se répéter un peu partout en France. On va pilonner le territoire, a prévenu hier Emmanuel Macron en visite surprise dans la cité marseillaise de la Castellane. Eux sont partis en prison dans la nuit. Les 3 jeunes suspectés d'être derrière la cyberattaque massive contre France Travail, l'ancien Pôle emploi, sont mis en examen et donc placés en détention provisoire. 43 millions de Français potentiellement concernés par ce piratage, avec risque de divulgation de données personnelles. Alors que sait-on ce matin, Pierre de Cossette, sur ces 3 suspects d'une vingtaine d'années ?
Ils n'étaient pas cachés derrière des ordinateurs en Russie, mais dans l'Yonne et dans la Drôme, lorsque les enquêteurs de la PJ parisienne sont allés les interpeller dimanche dernier. 3 jeunes de 21, 22 et 23 ans, dont l'un d'eux, selon nos informations, est étudiant en école de commerce. 3 jeunes dont certains semblaient se livrer à de l'escroquerie sur le web via la technique dite du phishing, en français du hameçonnage, pour récupérer des données personnelles d'internautes. Les policiers ont pu s'appuyer sur les éléments fournis par France Travail. Il se trouve que pendant un mois, des comptes d'agents de Cap Emploi emploi, service spécialisé dans la recherche d'emploi de personnes handicapées, ont été utilisés pour accéder à la base d'informations de France Travail. Les pirates informatiques ont ainsi pu télécharger des données de chercheurs d'emploi, identité, adresse, numéro de sécu, identifiant. Trois premiers suspects rapidement identifiés donc et mis en examen, mais la justice n'exclut pas la participation d'autres pirates.
Deux décisions très attendues aujourd'hui au tribunal de commerce. D'abord pour l'entreprise Valdune, dernier fabricant français de roues de train dans le Nord, qui doit être fixé sur sa reprise par le groupe Europlasma. 178 des 300 emplois et les deux sites de production seraient sauvés grâce aussi au soutien de l'État. Décision également dans la journée du tribunal de Bordeaux sur le plan de sauvegarde de 26 magasins Galeries Lafayette en région, propriété de l'homme d'affaires Michel Ohayon. Là, un millier de salariés sont concernés. Un accord cette nuit à Bruxelles entre États membres et Parlement européen pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes. En clair, on leur imposera à nouveau des droits de douane si elles dépassent à l'avenir les quantités des deux dernières années. Sont concernés les œufs, la volaille, le sucre, le miel, mais aussi certaines céréales, l'avoine, le maïs, mais pas le blé ni l'orge. C'est donc une réponse partielle aux revendications des agriculteurs en colère. Une première sur le vieux continent, un dirigeant noir, en l'occurrence le tout nouveau Premier ministre du Pays de Galles, le travailliste Vaughan Gesing, doit être officiellement nommé aujourd'hui à Cardiff après le feu vert du Parlement local. France Inter à Londres, Richard Place.
Sa mère élève des poulets dans son pays natal, la Zambie. Son père, lui, est vétérinaire. Vaughan Gesing naît donc en Afrique. Il est aujourd'hui zambien et gallois. Après avoir passé toute son enfance au Royaume-Uni et avoir expérimenté le racisme, il a toujours voulu faire de la politique. Il milite d'ailleurs au Parti travailliste depuis 32 ans. Ministre de la Santé du Pays de Galles pendant la pandémie, il n'a jamais caché ses ambitions. Il avait d'ailleurs déjà brigué le poste de chef du gouvernement en 2018. Battu il y a 6 ans, il a gagné cette fois le vote interne de son parti, malgré une affaire qui le poursuit. L'un de ses principaux donateurs, une entreprise qui a payé plus de 230 millions d'euros pour sa campagne, a été condamné 2 fois parce qu'elle avait déversé des déchets dans une zone interdite, puis pour ne pas les avoir enlevés. À la tête d'une majorité de gauche, il va devoir apaiser ses alliés dont certains réclament le remboursement intégral de cette somme. Londres, Richard Place, France Inter.
Donald Trump revient sur ses propos sur l'OTAN et pas sûr que ça rassure vraiment les Européens. Quand il a, en février, menacé de ne plus garantir la protection des pays de l'Alliance face à la Russie, c'était simplement, dit-il aujourd'hui, une manière pour lui de négocier avec eux. Car, je cite encore, les États-Unis doivent payer leur part, pas la part de tout le monde, avant d'ajouter, c'est plus important pour les Européens que pour nous, puisqu'on a un océan qui nous sépare de certains de leurs problèmes. En France, un film choc sur l'inceste signé Christine Angot. Pour la première fois, l'écrivaine s'empare d'une caméra. Une famille sort aujourd'hui en salle. L'histoire d'une quête personnelle fait reconnaître aux proches de son père les viols qu'il lui a fait subir à partir de ses 13 ans. Alors elle frappe aux portes de sa veuve, de ses enfants. Et c'est très puissant, Ilana Bar-Youssef.
Au début du film, il y a cette scène inouïe. Christine Angot arrive devant l'immeuble où vit l'épouse de son père. Elle hésite, elle sonne, on ouvre, elle monte. Mais elle n'est pas seule. Caroline Champetier, la chef de la photographie, est avec elle et filme la confrontation. « Je ne savais pas que tu avais une relation avec ton père », dit la femme. « Je n'avais pas une relation avec mon père, j'ai été violée par mon père », corrige Angot. Elle est telle qu'on la connaît, précise, coupante, sans concession, car pour faire exploser le silence qui recouvre l'inceste, il faut oublier les bonnes manières. Mais c'est une autre femme que révèle aussi ce film, nourri de photos intimes et de films de famille. Angot, émue quand elle évoque l'inceste avec son ex-mari, ils ne sont plus un couple, mais un lien très profond les unit encore. Et puis la lumière de ce film, Léonore, la fille de l'écrivaine, qu'on voit bébé, petite fille, adolescente et enfin jeune adulte, celle qui trouve les mots qui apaisent. « Je suis désolée que tu aies vécu ça ». Et soudain, le visage d'Angot, illuminé d'amour.
Une famille, c'est un film inter en salle aujourd'hui et sur l'appli Radio France. Vous pouvez réécouter aussi l'entretien qu'a accordé Christine Angot à France Inter, à votre micro Nicolas, c'était jeudi dernier. Le tableau n'était jusque-là pas connu, restait caché dans des collections privées. Un pastel de Rosa Bonheur doit être vendu aujourd'hui aux enchères à Paris. Étude pour l'émigration des bisons, c'est son nom, estimé à au moins 100 000 euros. 1 mètre de long pour 50 cm de large, c'est probablement le plus grand dessin réalisé par cette peintre animalière, figure féministe du 19e siècle.
Il est 7h39, les Bleus du basket connaissent leurs premiers adversaires des JO.
Et tirage au sort hier soir des phases de poule, plutôt clément pour les équipes de France. Les Françaises éviteront les Américaines et affronteront l'Australie, le Canada et le Nigeria. Les garçons retrouveront l'Allemagne, championne du monde en titre tout de même, le Japon. Et puis encore une incertitude pour le troisième adversaire, ce sera le vainqueur du tournoi de qualification début juillet. Mais quand même, enfin, on peut avancer, se réjouit Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe masculine.
Moi, je suis excité. Voilà. C'est une vraie excitation. Parce qu'effectivement, on identifie nos adversaires. On va pouvoir déjà travailler en visualisant ce qu'il va falloir faire. Ne serait-ce que l'Allemagne. Voilà. On va pouvoir vraiment se pencher de façon très précise. Et ça peut même aller jusqu'à un choix de sélection qui serait identifié par rapport à cette adversité et ce qu'on devra faire pour les battre. Et puis, je ne vais pas vous raconter de blagues. J'étais stressé avant le tirage au sort et j'avais des papillons dans le ventre. Hein. C'est normal. Maintenant, ça commence.
Vincent Collet avec Guillaume Batin. Et ce soir, ce sera au tour des équipes de foot de connaître leurs adversaires pour ces phases qualificatives des JO. Et puis, quand la technologie nous réjouit, car elle permet à un enfant malade de ne pas interrompre ses études, l'éducation nationale commence à déployer depuis 3 ans des systèmes de téléprésence. En clair, des petits robots qui permettent aux élèves de suivre leurs cours à distance et en direct, tout en interagissant avec leurs enseignants et leurs camarades dans la classe. Sébastien Germain a pu assister à cette expérience dans un collège niçois.
C'est un robot d'1,50 m avec pour visage un écran, une tablette où l'on voit EDM. L'appareil est monté sur des roulettes télécommandées. Le collégien peut déplacer son robot comme s'il était dans la salle avec les autres élèves. EDM le contrôle de sa chambre avec un joystick. Natacha Chicot, la rectrice de l'académie, est bluffée.
Alors, est-ce que tu peux venir vers nous par exemple là, ou pas ?
Ah,
c'est formidable. Vraiment, je suis ravie de moi, c'est la première fois que je vois fonctionnement de ce type de robot. C'est vraiment super.
Enthousiasme partagé par la professeure d'anglais d'EDEM, Shaima Ayoub.
Ah, moi j'adore. C'est vraiment l'usage de la technologie à bon escient, c'est ça. C'est incroyable. Parce que regardez, ça lui permet d'être là avec ses camarades. Il est à la maison et en même temps, il peut suivre, donc il perd rien, il ne perd pas une miette de tout ce qu'on fait en classe.
EDEM a une maladie auto-immune. Il est obligé de rester chez lui. Alors ce robot lui permet de ne pas décrocher.
Bah, c'est mieux que je n'ai pas en cours. Et oui, ça va, j'apprends bien. Et oui, c'est comme en classe. Et moi, je trouve que c'est bien.
C'est bien, dit EDEM, qui devrait bientôt revenir dans sa classe. Et grâce à ce robot, il connaît déjà ses camarades.
Reportage France Bleu Azur. Alors malheureusement, il n'existe que 4 robots de ce type dans les Alpes-Maritimes. Au niveau national, le ministère affirme en déployer progressivement 4000 exemplaires.
Alexis Morel, merci. À suivre, Yaël Gauze, Dominique Seux, Sonia De Villers.